Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Votre fidélité nous honore. Merci pour cette fidélité sans cesse renouvelée à la 93.5. Nous sommes aujourd'hui au vendredi 16 août 2024. Il sonne 11h, passé de quelques instants sur La Nouvelle Génération. Merci de nous choisir pour ce cinquième numéro de l'émission Club de la Presse. Et Club de la Presse qui démarre ainsi. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas Itek aussi d'ATV assure la mise en onde. La mise en ligne est assurée par Jérôd Akucha. Je suis Pascal Losso au micro. Comme toujours, vous nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nekor, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou, et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Et là, vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. Vous avez aussi le privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, à savoir notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook sur lesquelles justement vous pouvez nous suivre à travers le monde entier, et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Le Bénin. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, le débat et l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio, avec moi, il y a Firmette Kouagbo qui est là. Firmette, bonjour.
Bonjour Pascal Osso, merci de m'avoir invité.
J'espère que tu vas bien.
Ouais, nous allons tous bien par la grâce de Dieu.
Et les activités, j'espère que la semaine, ça s'est bien passé.
Oui, même bien que un peu mouvementé, on peut dire que ça s'est bien passé.
Au moins hier, il y avait au moins un petit repos là.
Oui, on s'est un peu...
Puisque c'était un jour de férié.
Oui, bah, vous savez, c'est comme hier, presque tout le monde avait oublié que jeudi devait être férié. Tout comme moi-même, j'avais oublié que jeudi était férié, mais c'est la veille que je m'en suis bien rappelé. On s'est un peu reposé, mais vous savez, le journaliste n'a pas le temps, il ne sait pas ce qu'on appelle soirée, il ne sait pas ce qu'on appelle matinée. On peut le réveiller à tout moment, à minuit, à 6h du matin, à 4h du matin. Et donc, il bosse comme un militaire, il bosse comme un soldat. Donc, indépendamment de l'heure, lui, il va librement à ses occupations. Et avec la grâce de Dieu, je pense que tout se passe bien et tout se passera toujours bien.
D'accord, c'est l'essentiel, tout se passe bien et tout se passerait bien. Monsieur Kofi Annani, bonjour.
Bonjour Pascal et bonjour à tous vos auditeurs.
J'espère que vous allez bien.
La grâce de Dieu toujours.
Voilà, c'est l'essentiel, la grâce de Dieu y est. Et c'est ce qui nous localise et nous devons remercier le Tout-Puissant pour cela.
Ah oui.
D'accord, c'est très important. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
C'est plutôt moi qui vous remercie.
Voilà. Alors, déjà, nous avons un invité, c'est Flavien Bakouman. Monsieur Bakouman, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Pascal.
Vous êtes le secrétaire administratif à l'ordre du Saint-Rite, et c'est ce syndicat alors qui s'occupe surtout, qui est en charge alors des reporters d'images, et aussi je vous ai invité alors ce matin pour qu'on discute un tout petit peu alors de cette journée de la photographie. C'était le 19 août dernier, le 19 août prochain, j'allais dire le 19 août prochain. Alors vous êtes le secrétaire administratif alors de ce syndicat, et finalement pour cette journée, qu'est-ce que vous prévoyez?
Merci encore de nouveau Monsieur Pascal. Effectivement, dans le cadre de la Journée mondiale de la photographie, le Saint-Rite, le syndicat national des reporters d'images du Togo, et pour sa 9e édition, a d'abord pour thème général la photographie au service des communes. Bon, nous avons déjà fait le lancement le 6 août passé. Et après ça, nous allons avoir un tournoi de football. Nous allons avoir des formations entre nous, photographes, et des invités spécialistes du domaine. Et nous allons mener aussi des activités sociales, nettoyage, sensibilisation et des lieux publics, sensibilisation entre nous et la population sur le port de casque et les lieux. Comment est-ce que nous-mêmes nous devons aménager nos services et nos lieux publics. Donc nous allons participer à ces activités en concertation avec les communes, quelques communes qu'on a ciblées en concertation.
Est-ce qu'on peut avoir le nom de ces communes?
Bon, on a ciblé une commune de chaque côté, c'est-à-dire dans le Golfe.
Oui.
Et une commune
à Guanivé aussi.
À Guanivé, donc à Guanivé une, et dans le Golfe, il y a Golf 4, il y a Golf 7. Bon, les discussions sont en cours.
D'accord. Que,
okay. On voit la disponibilité de ces différentes communes.
Alors aujourd'hui, c'est quoi le défi ou les défis même d'ailleurs de la photographie? Parce que c'est ce qui m'intéresse même d'ailleurs quand je vous ai invité pour cette émission. Parce que aujourd'hui, avec nos smartphones, avec nos appareils, est-ce que la photographie n'est pas sur la voie de disparition?
Exactement. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement la photographie qui est en voie de disparition. Le défi avec le développement, la modernisation, l'évolution de la technologie, beaucoup de secteurs connaissent vraiment une évolution fulgurante. Et évidemment, la photographie, aujourd'hui, tout le monde peut faire la photo. Et il y a des techniques qui sont automatiquement enseignées. On vous montre tout sur les smartphones, les Android, et tout le monde peut faire des photos, aller les faire développer. Donc, le défi, il est énorme, mais il y a toujours une différence entre le professionnel et l'amateur qui, bon, à travers le smartphone, pour faire des photos. Parce que le spécialiste, ou bien le professionnel, il a d'abord les notions, les détails de tout ce qu'il fait. Il maîtrise, il peut expliquer ce qu'il fait. Mais par contre, celui qui, aujourd'hui, prend son smartphone et fait la photo, il ne sait même pas quel est le plan qu'il faut prendre, il peut expliquer la scène et tout ça. Là. Ouais. Donc, le défi, bon, c'est que en tant que technicien et professionnel du domaine, nous devons continuer aussi à suivre l'évolution, afin que, malgré l'évolution et la technologie, notre métier soit toujours valorisé et que ce métier nous permette aussi de pouvoir souvenir à nos besoins, un travail pour pouvoir satisfaire nos besoins et rendre service toujours à la société.
Mais monsieur Kakouma, c'est vrai qu'une chose est de suivre l'évolution, mais l'autre chose est aussi de s'adapter même d'ailleurs à cette évolution. Comment vous faites alors pour vous adapter vraiment à cette évolution?
Justement, c'est ce que je disais, et que, par exemple, au cours des activités de cette 9e journée, il y a la formation. Donc, à chaque fois, nous faisons recours aux spécialistes du domaine. Par exemple, l'année passée, nous avons fait recours à une spécialiste américaine, mais qui est d'origine coréenne, qui est venue nous enseigner sur beaucoup de thématiques. Et nous étions heureux. Et donc, tout ça, il faut se mettre à jour. D'abord, avec le matériel, et avec ce que l'évolution, qu'est-ce qu'on peut encore faire de mieux dans le domaine. Ça ne va pas s'arrêter seulement à aller faire juste des photos de mariage, aller filmer les obsèques et tout ça là. Mais bon, créer encore davantage, imaginer dans le domaine, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils puissent avoir effectivement, puisque tu puisses répondre aux besoins de l'heure et avec les défis qui se présentent.
L'autre question qu'on se pose est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui la photographie continue pas à nourrir son homme?
Bon, la question, il peut dire oui et non. Oui et non. Bon, c'est ce que j'ai dit. Si tu ne réponds plus, si tu n'as pas les appareils qu'il faut, et si toi-même, tu n'arrives pas à innover dans ton domaine.
Parce qu'il y a aussi des appareils très performants aujourd'hui, hein?
Oui, justement, très et très performant, qui donne des qualités d'image exceptionnelles et à distance, tout ça là. Bon, même au-delà de ça, il faut aussi toi-même que tu maîtrises, c'est ce que j'ai dit, tu maîtrises le domaine, que ton travail vraiment satisfait le client ou bien le besoin, c'est ça aussi. Donc, il faut la connaissance du domaine, c'est ça qui fait la différence entre les amateurs et les professionnels. Il faut que tu puisses expliquer, il faut que tu puisses décrire. Parler, écrire comme les journalistes, écrire une scène et tout ça là, et à travers les
images. Il faut de l'innovation.
Voilà, il faut de l'innovation, assez d'innovation. Donc, il faut créer, il ne faut pas s'arrêter juste aux événements courants que nous avons l'habitude de faire les reportages.
Alors, puisque nous voyons quand même qu'il y a des gens qui sont à courte d'innovation, et c'est ce qui fait que finalement, ils ne se retrouvent même plus alors dans le domaine, et par après, c'est qu'ils se convertissent plutôt alors dans d'autres domaines pour faire d'autres activités. Et là, s'il y a de l'innovation, de l'originalité, je pense quand même qu'on peut facilement s'adapter aussi à l'évolution, à ce qui se passe aujourd'hui, surtout sur le plan numérique, pour qu'on arrive à apporter aussi ce qui est nécessaire, hein, pour qu'on arrive à comprendre que, mais oui, lui, il s'est vraiment adapté, c'est bien ça.
Exactement. Par exemple, aujourd'hui, nous voyons, ici dans le pays, par exemple, nous ne sentons pas tellement la photographie dans le domaine des expositions. Ouais. Et on voit que les peintres, les plasticiens. Mais le photographe aussi peut parler à travers des expositions. Donc, dans ça aussi, des thématiques, le photographe a droit de parler de toute histoire de la vie humaine, sociale, politique. Il peut écrire à travers les images. Donc voilà, donc il faut que le photographe innove aussi à travers ça.
Voilà. Et quand on parle d'innovation, vous avez vraiment innové, et c'était à travers un projet que vous avez initié entre-temps, et c'était sur la métamorphose même d'ailleurs des routes, ou le développement de la route au Togo, et ce projet, vous avez fait même une exposition également dans ce domaine, qu'est-ce que ce projet a consisté concrètement à faire?
Oui, merci beaucoup. Ce projet, au fait, il n'est pas encore exposé, mais nous avons fait une sortie médiatique pour expliquer ce projet au public en 2017. Au fait, ce projet a consisté à prendre l'image des routes togolaises à partir de 2010-2011, où une politique a été lancée par le chef de l'État de reconstruire ou bien d'arranger les routes.
Avant
la réhabilitation des routes. Nous avons chanté dans ce pays, d'eau vide, goudron vide, tout ça là. Bon, à un moment donné, à partir de 2010-2011, une politique a été lancée. Bon, une idée nous est venue comme ça de parcourir le pays durant avant 2010 d'ailleurs, et jusqu'à 2015-2016, et prendre les routes du pays. En commençant par les routes bitumées qui étaient totalement défectueuses, impraticables.
Délabrées.
Et maintenant, la politique a été lancée et nous avons commencé à suivre les travaux de ces routes pour voir la finalité. Bon, aujourd'hui, nous avons vu qu'avec la construction de ces nouvelles routes et la réhabilitation des anciennes, ça a beaucoup changé l'image. D'abord, la vie sociale a changé, le déplacement est devenu plus facile, beaucoup de nouvelles routes ont été construites. Etc. Nous avons compris que la démonstration qui nous parle de le développement de la route passe par le développement passe par le long de la route est vraiment confirmé par cette politique la politique des grands travaux.
Et voilà, aujourd'hui vous attendez sûrement à faire l'exposition alors de ces travaux. Alors quel a été peut-être alors l'impact, puisque déjà il y a une particularité que vous avez trouvée sur cela quand vous prenez même d'ailleurs ces photos. Quel a été le constat d'abord sur le terrain?
Le constat, c'est que bon, d'abord beaucoup de routes ont changé d'aspect. Après le changement de l'aspect, la vie même sociale a changé. Au bord de ces nouvelles routes qui existaient en piste, il y a eu vraiment, sur le plan économique, un développement du secteur informel. Toutes ces routes, les abords de ces routes ont changé.
C'est-à-dire qu'il y a des activités qui ont été initiées.
Qui sont nées. Et aujourd'hui, là, on ne dort même plus pratiquement. Au bord de cette route sur cette route, on ne dort plus. Les activités continuent 24 heures sur 24. La circulation est permanente. Tu peux faire tes activités en tout temps. Nous voyons les bars qui sont là jusqu'à 4 heures du matin. C'est parce que ces routes ont été construites. On peut se déplacer facilement. Et il y a aussi l'éclairage qui s'est associé à ces routes qui fait que la vie quand même a changé. En fait, quand tu es dedans, tu ne le sens pas. Mais quand tu le parcours comme je l'ai parcouru, quand tu vois le passé, et quand tu vois le présent, tu vois vraiment qu'il y a un changement.
Voilà. Alors, déjà dans ces prises de photos, quand tu faisais même d'ailleurs ce travail, quelle a été la difficulté majeure que tu as rencontrée?
Il y a beaucoup de difficultés. D'abord, difficultés techniques. J'ai commencé avec les appareils, semi-professionnels ou bien grand public, c'est-à-dire, comme le disait les appareils, ça coûte cher. J'ai commencé comme ça banalement. Et bon, ensuite, l'une des difficultés, vous voyez, c'est comme c'est vrai, l'un sujet, moi, je ne l'ai pas fait avec idée politique, mais j'ai découvert après tout que, bon, je suis rentré dans la politique. Que c'est un sujet, bon, puisque les responsables de la politique sont des politiques. Ouais, donc, alors que moi, quand je suis rentré dedans, quand j'ai commencé à faire les photos en 2010-11.
Vous l'avez fait comme
citoyen. Moi, je le faisais en tant que photographe, je voulais quand même.
Un citoyen. Voilà, qui aime
Qui aime voyager, qui aime prendre les images de tout et de rien. Bon, après tout, quand j'ai commencé à vouloir formaliser le projet, on me dit, attention. Et là, sur le terrain, j'ai pas eu la tâche facile. On m'a plusieurs fois bloqué les appareils. même à Lomé, ici à l'intérieur.
Mais vous avez reçu l'autorisation du ministre des Transports d'alors.
L'autorisation, elle est toujours là, oui. Il y a l'autorisation, mais il fallait que... Parfois, vous voyez, c'est un truc qui n'est pas forcément programmé. Tu sors des fois sans avoir les documents sur toi. Mais tu vois que tu es arrivé, que tu découvres un chantier. Parce que je n'avais aucun programme sur la construction de route. Moi, je ne fais que me promener seulement. Je me dis, je découvre, voilà.
Ouais,
donc, j'arrive sur un chantier, bon, des fois, tu le fais caché. Mais des fois, tu es obligé, on t'interpelle, bon, tu expliques, tu n'as pas le document. Mais malgré ailleurs, à Lomé, même ici, j'avais le document, mais il a fallu passer des coups de filo directement au ministère pour qu'on confirme que j'ai l'autorisation. Parce que, bon, je ne sais pas pourquoi, bon, j'ai compris que, bon, je travaille sur un domaine politique, donc on doit savoir pourquoi, on doit savoir si je suis autorisé, tout ça là, bon. Et puis, les difficultés aussi, elles sont d'ordre financier. Je n'ai jamais eu un soutien financier. J'ai écrit à toutes les structures en charge, à la présidence, au directeur de cabinet, au ministre de l'administration, toutes ces autorités, dont ont répondu plus de 5-6 courriers ont été envoyés plusieurs fois depuis là.
Que vous n'avez jamais eu alors de
même
de
les appels, bon, rarement, bon, voilà. Donc aujourd'hui, je sais pourquoi l'exposition n'est pas encore sortie, parce que je n'ai plus de moyens, j'ai investi de l'argent. Ça fait 6-7 ans que j'ai fait des photos à moto, je parcours tout le pays.
Mais finalement, voilà. C'est quoi la suite qui sera donnée à cela? Parce que il faut certainement l'exposition, hein, une séance alors d'exposition pour que du moins ça soit aussi en quelque sorte au vu et au su alors de la population.
Oui, merci. Et en réalité, moi, je suis fier de ce travail que d'abord j'ai fait. Et je suis sûr que les Togolais, de tout bord, parce que les routes, elles sont conçues par un politique, mais elles servent à tout le monde. Quand tu verras toi-même comment est-ce que devant ta maison, elle était. Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'elle est devenue? Tu même ne le connaîtras pas, peut-être. Peut-être que tu as voyagé avant, quand on construit, tu n'es pas encore revenu. Aujourd'hui, tu vas voir que tu serais fier de voir que, ah, effectivement, il y a un changement au-delà de tout. Même si ce n'est pas la perfection, il y a quand même un changement. Et on a besoin de savoir d'où on vient, où on est, et où est-ce qu'on peut aller. Ouais. Donc, à travers ça, ça peut permettre aussi d'améliorer. D'améliorer et de mieux faire. Il y a des erreurs qui sont faites, et bien on en parle, les mauvais ou tout ça, là, je ne suis pas pour la qualité, mais qu'on comprenne que quelque chose a commencé. Ensemble, on peut encore faire quelque chose, on doit chercher à améliorer. Et c'est à travers les images qu'on peut faire ces études, ces comparaisons, et mieux faire davantage.
D'accord. Voilà. Monsieur Bakouma, nous sommes pratiquement à la fin lors de cet entretien. Alors, si vous avez un mot à l'endroit des autorités, à l'endroit des populations aussi, qu'est-ce que vous pouvez dire? Puisque même ces routes dont vous parlez, il faut aussi de l'entretien. Entretien, ça dépend également des autorités et aussi des populations.
Évidemment, dans le projet, il y a tous ces facteurs qui sont pris en compte. J'ai fait des photos, des impacts, par exemple, de l'utilisation des caniveaux bouchés, des lampadaires détruits par l'effet des accidents, des mauvaises conduites, tout ça. Tout ça, là, il y a une sensibilisation, au-delà de l'exposition qui démontre, il y a aussi une sensibilisation qui est programmée au cours de l'exposition où, bon, on va expliquer, nous-mêmes, en tant que citoyens, comment nous devons faire nos pas, notre part, parce que c'est des investissements énormes, les surcharges qui détruisent les routes et tout ça, là. Donc, j'attends... d'abord des autorités, ils nous encouragent à initier, souvent on les écoute sur les médias. Je pense qu'il faut que vraiment ce projet, c'est eux d'abord les premiers responsables, mais bon, tout citoyen aussi, toute société, toute entreprise, hein, qui vraiment veut encourager un artiste, un artisan photographe que je suis aussi peut nous faire recours. Il peut prendre par exemple une route et puis bon, m'aider à produire les images en attendant que bon, je fasse tout. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans l'exposition.
D'accord.
J'ai prévu un jeu. Par exemple, quand nous sommes là tout à l'heure, quelques photos, si vous demandez de reconnaître cette route-là, peut-être vous n'allez reconnaître aucune route là-bas. Il faudrait vous dire que celle-là, c'est celle-là. Voilà comment elle est devenue tout ça là. Donc, beaucoup, un jeu est prévu même dans le cadre de l'exposition où les citoyens seront appelés à identifier les photos du passé, du présent et de la pour voir s'ils circulent, pour voir s'ils voyagent, s'ils aiment leur pays ou pas.
D'accord. Voilà. Et si vous avez un contact à donner rapidement?
Oui, je suis au 90 15 11 38.
90 15 11 38. Voilà, c'est là,
oui,
le contact.
Bah, je pense que c'est déjà bon.
D'accord, oui. c'est déjà bon. Merci beaucoup, Flavien Bakouma, d'être passé dans cette émission.
C'est moi qui vous remercie.
Alors, nous sommes rejoints par Thierry Afanoukoué. Thierry, bonjour.
Bonjour Pascal et bonjour à toutes et à tous.
J'espère que votre rédaction Gapola se porte bien.
Ah oui, on rend grâce à Dieu.
D'accord. Alors, chers confrères, nous allons parler, débuter ce débat avec ce sujet évoqué par le Canard indépendant. Le journal qui titre sa une ce matin, mauvais accueil des patients, une réalité cruelle dans les hôpitaux publics. Et c'est un article à retrouver dans Kana Indépendant lors de ce jour et à la page 2 surtout, alors du journal. Alors Thierry, c'est vrai que on a toujours eu, ou la population a toujours eu à décrier ce que consiste surtout alors le mauvais accueil dans les hôpitaux, et surtout publics, mais il semble que ça continue.
Oui, ça continue parce que on ne sévit pas. Ça continue parce que ceux qui sont appelés à faire ce travail, je me permets de dire que ils ne savent pas le pourquoi de leur présence dans ces centres sanitaires. Parce que quand vous avez vocation à faire quelque chose, il faut toujours le faire de la meilleure des façons. Ça fait même que des fois, quand eux-mêmes tombent malades, ils ont peur de se faire soigner dans les mêmes.
Quand vous parlez d'eux-mêmes, c'est qui?
Oui, ceux qui sont au service d'accueil dans les hôpitaux. Parce que des fois, il y a quelque chose qui me choque et ça me revient toujours. Quand vous êtes dans la circulation, vous voyez des ambulances passer avec tout le bruit qui accompagne leur passage. L'ambulancier fait tout pour amener à temps le patient à l'hôpital, mais vous êtes surpris, vous vous rendez dans cet hôpital ou bien dans ce centre sanitaire des heures après. Le malade que l'ambulancier a tout fait pour amener à temps est même à sol ou du moins sur un lit et qu'il n'y a même pas de personne, de médecin ou d'infirmier à s'occuper de lui. Donc finalement, vous vous demandez à quoi ça sert de céder le passage à une ambulance qui passe pour amener un patient à l'hôpital quand par après, la personne on l'amène mais on ne s'occupe pas d'elle. Donc voilà les réalités de nos hôpitaux, de nos centres sanitaires. Les premiers responsables, ceux qu'on a nommés directeurs de ces centres-là, ils sont là dans leur bureau, ils ne prennent pas la peine de sortir de leur bureau pour peut-être faire le contrôle de temps à autre pour voir est-ce que le personnel mis à sa disposition répond véritablement à leur cahier de charge. C'est de ça qu'il s'agit. Et voilà, on n'a jamais cherché. Je parle au plus haut niveau. On n'a jamais cherché à résoudre ce problème-là. Et voilà, on lance pêle-mêle des projets concernant la santé. Aujourd'hui, on parle d'AMU. Mais c'est dans ces conditions-là que on veut que tout le monde se retrouve à l'hôpital quand on est malade parce que l'État prend en charge les frais de soins. Mais ça va créer un autre problème par après. La fois dernière, on a vu que on nous a amené ou bien on nous a fait don de matériel sanitaire et médical et tout. Mais à quoi ça servirait si l'accueil n'est pas au rendez-vous? Parce que quand vous êtes bien accueilli à l'hôpital, pendant que vous souffrez, ça vous soulage. Vous avez confiance, vous avez foi que, peut-être quand on va passer une ou deux piqûres ou des sérums ou du moins quand vous serez en contact avec le médecin et on va diagnostiquer ce dont vous souffrez et que vous serez véritablement pris en charge. Mais ce n'est pas le cas. Déjà, l'accueil est faussé, donc ne vous attendez pas que le diagnostic soit forcément une réussite. Parce que dans notre pays, on vous fait faire des analyses qui ne donnent jamais de résultats. Et pourtant, le mal est là. Mais vous dépensez dans des analyses pas possibles, mais on ne diagnostique jamais et le mal, vous êtes souffrant, ça veut dire que même dans le processus de diagnostic du mal dont vous souffrez, le processus est faussé. Peut-être qu'on ne pose pas les bonnes questions, peut-être qu'on ne réunit pas les bonnes conditions pour vous permettre de révéler, de détecter ce dont vous souffrez. C'est un réel problème. Donc il faudrait problème. malheureusement les ministres de santé qu'on a connus jusqu'à aujourd'hui, qui la plupart sont des médecins, n'ont jamais apporté solution à ce problème-là, y compris les directeurs. Les gars, ils sont là, ils ne parlent que de leur traitement salarial et tout. Voilà, malheureusement,
le problème. Oui, monsieur Anani, c'est vrai que c'est une réalité, ce mauvais accueil qui est constaté dans les hôpitaux, notamment les hôpitaux publics, et c'est une réalité, mais toujours est-il que, tel que Thierry l'a dit tout de suite, quand un patient vient dans un hôpital et qu'il est bien accueilli, alors il est en partie guéri.
Pascal, c'est une triste réalité que l'on ne peut que continuer par déplorer jusqu'à ce qu'on ait des solutions idoines. Vous voyez, lorsque vous avez mal à la tête, par exemple, vous avez une migraine et que vous allez dans un centre de santé, l'accueil que vous recevez déjà aggrave votre condition. Et je pense que le problème, bien que grave dans ce domaine-là, ne se situe pas seulement au niveau de la santé. Ces personnes-là que l'État a employées pour travailler, qui aujourd'hui peuvent se dire « j'ai une décennie, deux décennies pour travailler et après j'irai à la retraite », que ce soit au niveau des hôpitaux ou dans les autres secteurs de la vie publique, ce sont des gens qui déjà se croient tout permis et qui se permettent de narguer toute personne qui vient là pour se faire administrer des services. Et je pense que il est temps que, dans la volonté de mieux faire que l'État nous montre depuis ces dernières années, il faudrait que l'on mette en place un organe externe qui puisse se charger de l'inspection de ces personnes-là qui sont dans les services publics mais qui ne donnent pas vraiment ce qu'ils devraient donner. Il y en a qui sont plus compétents, qui sont plus, comment dirais-je, désireux de faire bien le travail, mais qui sont à la maison, tandis que d'autres ont l'opportunité, mais qui sont en train de déconner. Je pense qu'il est temps que l'État puisse aller dans le sens du règlement de ce problème-là.
D'accord. Oui, mais Firmin, c'est vrai qu'entre-temps, il y a le SEMFOTS, hein, le syndicat des praticiens hospitaliers, bien sûr, qui a reconnu également qu'il y a de ces mauvais accueils aussi dans les hôpitaux publics. Et le syndicat même a promis de travailler pour régler alors le problème. Et il y a des formations, des sensibilisations que le syndicat a commencé également par initier. Mais au-delà même d'ailleurs de ces formations et sensibilisations, c'est comme si nous ne sommes plus à l'étape de la sensibilisation et qu'il faut sanctionner, c'est ça?
Non, ça n'a rien à voir avec la sanction. Moi, le SEMFOT peut sensibiliser, mais on n'aura pas les résultats escomptés. On n'aura aucun résultat. Vous imaginez, ce n'est pas une question liée à la santé. Enfin, c'est ce que moi aussi je croyais. Ce n'est pas une question liée à la santé. Monsieur Anani l'a élargi tout à l'heure. En fait, c'est lié à notre être. C'est lié à notre être. Nous, Togolais, je ne vais pas parler des autres pays, mais je me dis, c'est lié à notre être. Il y a un mauvais accueil partout, dans tous les secteurs, que ce soit dans le public ou le privé. C'est lié à notre être. Peut-être c'est au niveau de notre formation de base. Pascal, vous prenez 10 boutiques sur cette voie-là, la voie de Canal FM. Vous parcourez ces 10 boutiques dans la journée. Et le soir, vous faites votre petit jeu pour voir si vous avez été bien accueilli. Je vous assure que sur 9 sur 10, vous serez déçus. Que ce n'est pas l'État qui les a engagés. Partout, c'est comme ça, en fait. Ça veut dire qu'en réalité, on a un souci. Pour moi, je pense que l'État ne prend pas ça au sérieux. Bon, bien sûr, on va accuser au niveau de l'hôpital, excusez-moi, à certains niveaux, c'est du désastre. Parce que vous voyez, vous amenez un malade qui est en train de mourir. Vous voyez des gens qui s'amusent, qui prennent leur téléphone. Ça c'est vraiment dangereux parce que la vie est en danger. On ne devrait pas arriver là. Mais pourquoi les gens se comportent comme ça? Ça fait des années qu'on en parle. Ça fait des années qu'on dénonce ce genre de situation. Mais pourquoi ça ne change pas? Parce que vous allez sensibiliser les gens 2 jours, 3 jours, et puis c'est fini. Puisque c'est lié à leur être. C'est lié à leur âme. Les gens sont nés, je ne sais pas, les gens depuis leur bas âge sont comme ça. Donc, je pense que c'est depuis la base qu'on devait commencer à régler le problème. Et c'est au niveau peut-être de nos écoles. L'État devrait peut-être intégrer ça dans le système éducatif. Je vais vous donner un petit exemple. Un jour, je suis allé au marché. J'avais 5000 francs. Je me suis rendu dans une boutique. Il y avait, je vous donne, prendre juste un truc de 500 francs. Donc, j'ai 5000. Donc, je présente à la dame. Que c'est comme ça. Et si vous voyez comment la dame m'a ramassé. La dame m'a ramassé. Je me suis dit, oh. Et puis je suis allé dans une autre boutique et je présente l'argent. Toujours maintenant, ma demande, c'était une autre dame, elle était de teint clair. Et puis je lui dis, moi j'ai 5000, je veux un truc de 500 francs. Et puis elle saute sur moi, mais ça va, non, il n'y a pas de problème. Oh, vous... Et puis avant de partir, je lui ai posé une question. Est-ce que vous êtes togolaise? Je ne pense pas que vous soyez togolaise. Elle dit non, qu'elle vient du Ghana. C'est ce que la dame m'a dit, qu'elle vient du Ghana. Deuxième exemple, quand vous allez, mais c'est pas pour faire publicité à Canal+, vous allez dans certaines boutiques de Canal+, vous êtes tellement bien reçu. Je sais pas si vous avez fait le constat. Vous êtes tellement bien reçu. Monsieur, bonjour. Et c'est que des fois, quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous voulez, avant de partir, vous êtes tenté de faire un petit geste à cette dame-là qui vous ont bien accueilli. Parce que vous ont seulement, monsieur, bonjour, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Or, ces mêmes personnes sont sur le sol togolais parce que les formations se sont multipliées à leur endroit. Le problème, ce n'est pas seulement lié à... Pourquoi ça se passe au niveau de la santé? Mais c'est parce que c'est nous qui nous formons, c'est nous qu'on envoie dans le système de santé. Ou dans le système de santé. C'est les mêmes personnes, c'est les mêmes togolais qu'on envoie dans d'autres domaines. Ce n'est pas un problème lié pratiquement, pratiquement à toute l'administration publique, mais c'est lié à tous les togolais, à notre esprit, à notre âme, à notre être. C'est comme ça que nous sommes. On accueille très mal. Et excusez-moi, je ne voudrais pas dire qu'on est impoli, mais on est mal poli. On est mal poli quand on accueille dans nos boutiques, même dans nos médias. Moi-même, je suis dedans. Vous imaginez, je ne m'y soucierai pas, moi-même, je suis dedans. Peut-être au niveau de mon centre, ma secrétaire n'accueille pas bien. Il y a des choses, quand vous voyez, vous êtes sidéré. Donc, je pense que c'est au niveau. Ce n'est pas seulement la santé, oui, on en parle, mais dans d'autres domaines aussi.
D'accord. Oui, mais Thierry, le paradoxe par rapport à ce que Thierry et Firmin dit, c'est qu'il y a des cliniques dans lesquelles vous irez et que vous êtes bien accueilli, tandis que c'est les mêmes personnes peut-être qui vous ont mal accueilli déjà quand vous étiez dans l'hôpital public.
Oui, c'est là où il y a le. J'ai parlé tantôt de cahier de charge. Quand vous engagez des gens pour un travail, je crois que de temps à autre, il faut les évaluer. De temps à autre, il faut vérifier et contrôler ce que ces personnes-là font. Je vous disais tantôt que les directeurs de ces différents centres de santé que nous avons passent leur temps dans leur bureau. Et les gars ne viennent pas voir ce qui se fait dans leur centre. Ce qui se fait dans leur centre. Quand c'est comme ça, tout peut arriver. Je vous dis que vous ne pouvez pas amener un malade au CHU Tocoin, Sylvanus Olympio, et que votre patient, votre malade soit bien traité si vous n'avez pas des relations, si vous n'avez pas des contacts. Quand on le dit, on se fâche qu'il y a quoi et quoi. Mais c'est la réalité, nous les vivons. Nous les vivons. Nous n'inventons rien. Il suffit juste de quitter ce centre-là, ce studio, d'amener un malade tout juste à côté ici à Sylvanus Olympio. Vous allez revenir témoigner de ce que nous parlons. Donc, il faudrait que au plus haut niveau, on décide de faire les choses autrement. Je disais la fois dernière ici, je crois, si je ne me trompe, à une autorité que, mais écoutez, quand vous nous présentez la 5e République comme la meilleure des choses qui soit arrivée aux Togolais, mais ce que vous oubliez, c'est que cette 5e République-là sera animé par des hommes et des femmes. Et c'est les mêmes qui, depuis des décennies, animent notre vie quotidienne, qui seront encore appelés à animer notre vie sous cette nouvelle constitution, que rien ne changera s'il n'y a pas de un déclic au niveau mental, si les autorités ne donnent pas une directive claire et nette aux Togolais que voilà ce que nous voulons pour notre pays, que voilà ce que nous sommes appelés à faire. Aujourd'hui, quand nous citons des pays en exemple et tout, c'est parce que à un niveau donné, et le dirigeant ou bien celui qui est à la tête du pays a imprimé une dynamique et les autres suivent. Mais quand ce n'est pas comme ça, rien ne va changer. Et c'est dans ces conditions-là qu'on lance l'AMU. Alors que nous tous, nous décrions notre système sanitaire. Il n'y a pas que de problème de matériel et médical que nous avons. Il y a aussi le problème du personnel. Et au niveau de l'administration publique, c'est encore pire. Les gens viennent au bureau sans pour autant savoir ce pourquoi ils ont été engagés. Ils viennent, ils ne comptent que les jours pour qu'à la fin du mois, et on les paye dans les centres de santé.
Là, c'est encore un autre problème, c'est-à-dire surtout le problème de conscience professionnelle.
Voilà, ça n'existe pas. Qu'est-ce que les dirigeants veulent pour notre pays? Mais et dans d'autres pays, vous entendez que le plus gros sommet, le chef de l'État ou les responsables de département font des visites inopinées dans les départements, dans les services relevant de leur département. Mais ici, ça n'existe nulle part.
D'accord.
Ça n'existe nulle part. Non, il faudrait qu'on choque l'opinion. Il faudrait qu'on commence par frapper sur les doigts des gens pour que les gens comprennent que les choses ont changé.
D'accord.
Que ça ne peut plus se passer comme ça, que les choses ont changé. Sinon, on va vivre toujours et toujours. Ça fait que, personnellement, moi, je prie Dieu tout le temps pour ne pas tomber malade, pour se retrouver dans la main de ces gens-là.
D'accord, ok. Oui, mais...
Non, je pense que c'est une question de responsabilité. Quand Thierry a... j'allais vous appeler Thierry Henry.
Ah.
Mais vous n'êtes pas pour votre balleur. Donc, au fait, quand Thierry parlait de visite inopinée, je pense que c'est une bonne chose. Mais je pense que, c'est-à-dire, il faut que nous nous comportions en responsable. C'est une question de responsabilité. Vous avez parlé de conscience professionnelle tout à l'heure. C'est une question de responsabilité. Il faut avoir l'esprit, la conscience professionnelle. Quand on parle de visite inopinée, bon, nos papas nous disaient que le général Yadema le faisait. Des fois, il arrivait même avant 7 heures. Et vous venez au boulot, ou peut-être le jour même où il pleut, il vient avant tout le monde. Et lorsqu'il ne vous voit pas à votre poste, vous êtes licencié tout de suite. Oui, c'est des choses. Mais on ne peut pas faire ça. Le dirigeant ne parle pas le fait du nord aussi, de l'air, de l'est à l'ouest. La meilleure des choses, c'est qu'il faut inculquer des valeurs aux gens depuis la base. C'est ça le civisme. C'est ça le patriotisme. Quand vous inculquez un certain nombre de valeurs, mais ce n'est pas aux dirigeants de venir vous dire, monsieur, vous devez venir à l'heure, parce que vous l'avez déjà dans votre esprit. Moi, je pense que c'est une question liée à la formation. Il faut promouvoir les valeurs civiques, le civisme, la citoyenneté, le patriotisme, que chacun ait dans son esprit quelque chose qui puisse le motiver à contribuer à construire ce pays. C'est-à-dire, pourquoi nous avons boulot? Vous savez, nous sommes ici parce que c'est notre manière d'apporter un plus à notre pays. C'est parce que, attendez, on le fait pourquoi? On le fait pour ceux qui dirigent. C'est-à-dire, nous sommes des collaborateurs de services publics, nous journalistes ici. On le fait pour nos grands-mères qui sont à la maison. On le fait pour tous ceux-là, tous les Togolais qui nous écoutent. Et chacun va se dire, ah, c'est comme ça le pays évolue. Et c'est peut-être ceux-là qui le font mal, qui dirigent mal, qui ne font pas bien ce qu'ils doivent faire, ils se disent, ah, voilà des propositions qui nous sont faites. Donc c'est notre manière aussi de contribuer. Que chacun se sente togolais et qu'il se dise, moi aussi je veux aider ce pays à évoluer. Si nous n'avons pas ça là, mais je pense non.
Malheureusement, d'accord, ça nous a quittés.
Oui, mais voilà.
Comment vous expliquez, vous allez dans un service pour un service?
Oui, la technologie est permise.
Voilà. Et que la personne censée vous aider pour ce pourquoi vous êtes là, après peut-être vous avoir rendu le service, vous dit, oh, et tonton, me laisse ça déodorant l'eau. Allô, tonton, me laisse ça et nous arrêter l'eau. Mais toi, tu es à la fonction publique. Vous êtes à la fonction publique. Et dans le business de l'État, vous faites votre propre business. Et on tolère des choses comme ça. Moi, je connais des services, mais la dame, et vous vous demandez même pourquoi on a créé ce... Parce que c'est une sœur ou quoi, je ne sais. On lui a créé un poste comme ça et on l'a mis là-bas. Ce qui fait que tout le temps... Elle est dans les services traiteurs. D'accord. Elle ne vient pas au bureau.
Voilà. Et je pense que c'est un problème de conscience professionnelle et je pense que...
Et de responsabilité.
De responsabilité,
mais justement. On va y arriver. Je crois qu'il y a quelque chose qui a commencé Thierry, peut-être avec la nouvelle Premier ministre confirmée, Daubert, parce que selon les indiscrétions, les ministres sortant des fils pour faire le point de leur cahier de charge. Et je crois qu'il faut maintenir peut-être cela et que, et comme ça, vous-même, quand vous passez et que vous passez à cet examen-là, vous rendez compte que si vous serez reconduit ou pas, s'il y a régulièrement de ce genre d'exercice-là, peut-être avec le personnel des services, je crois que...
Voilà, on va en parler tout de suite. Nous allons quitter le sujet. Et on parle maintenant, on rentre dans les différentes communes. Hein, et, monsieur Anani, on rentre dans les différentes communes pour parler même d'ailleurs de la gestion des déchets ménagers. Et bien sûr, pour ce qui concerne alors ces déchets ménagers, il y a le journal Le Canard Indépendant qui titre à sa une ce matin « Gestion des déchets ménagers, problème de moyens ou de stratégie ». Le journal s'interroge bien sûr. C'est vrai que dans beaucoup de communes même d'ailleurs des mairies, allons-nous dire, ces mairies ont toujours eu ces problèmes alors de gestion alors de ces déchets alors ménagers. On se demande vraiment si c'est un problème alors de moyens ou de stratégie, parce que beaucoup de citoyens ou des concitoyens attendent ces mairies sur ce plan pour que la gestion soit efficace. Alors je ne sais pas si à votre niveau et monsieur Anani, si à votre niveau vous avez constaté aussi ces problèmes.
Oui, c'est un problème récurrent, c'est un problème que nous avons presque à tous les niveaux. S'il faut dire que c'est un problème de manque de moyens, je ne saurais le dire puisque je ne sais pas
le fonctionnement alors de ces mairies.
De ces mairies-là, je ne saurais dire grand-chose par rapport à ça. Mais je pense aussi que je vais rejoindre Firmin qui disait tout à l'heure que c'est d'abord le problème de Wélé, c'est un problème à la base, c'est un problème de responsabilité citoyenne. Le fait que quelqu'un se dise, bon voilà, je peux prendre des ordures de la maison, venir les jeter n'importe où je veux, c'est à l'État de gérer ça, et quand c'est sale, c'est l'État que j'accuse. C'est d'abord ça qu'il faut revoir, dès la base. Mais maintenant, je pense que au niveau des mairies, s'il y a des moyens de trouver des entreprises compétentes, qui peuvent, compétentes dans le domaine de l'assainissement, qui peuvent faire le travail, comment ça doit se faire, ça peut beaucoup aider à régler ce problème-là. Ce qu'on voit, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est que ce sont des entreprises créées du jour au lendemain qui n'ont pas grand-chose comme expérience, à qui l'on donne ces contrats-là de gestion des déchets.
Il y a des fois des entreprises aussi qui sont en manque de matériel.
Manque de matériel, je viens de le dire, que ce sont des entreprises créées du jour au lendemain, qui n'ont pas de moyens, qui manquent d'expérience. Et on leur donne ces contrats-là parce que, bon, on connaît un tel monsieur à ce haut niveau-là, et le travail n'est pas fait comme cela se doit, et ça continue comme ça. Et c'est quelque chose qui risque de nous faire mal.
D'accord. Oui, mais Firmin, c'est vrai que le problème s'est posé entre-temps aussi dans le Golfe 5, où des gens sont vus, même d'ailleurs, de leurs déchets, comment on appelle, ou des ordures quand même, qui sont restés pendant pratiquement un mois, déjà à leur porte. Mais il est très important quand même qu'on arrive à régler ces problèmes-là, à trouver des stratégies aussi possibles pour régler efficacement ce problème.
Non, moi, je pense que si vous prenez le problème comme ça de façon isolée, on ne trouvera pas la solution. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que depuis ce vent de la démocratie, le Togo est perdu. Perdu sur le plan institutionnel. Parce qu'avant, avant 90, c'était sous la dictature, vous imaginez. Mm-hmm. C'était sous la dictature. Est-ce que vous pensez qu'avant 90, vous pourriez observer ce genre de problème? Parce qu'à l'époque, je pense qu'il y avait une société. Quand on était au primaire, on parlait de ce sautement. C'était togolais pour enlèvement des ordures ménagères. C'est-à-dire tous les matins, vous voyez un gros véhicule qui vient, qui ramasse toutes les ordures. parce que c'était bien tracé, c'était bien ficelé. Donc, c'était un truc bien réglé, parce qu'à l'époque, c'était un seul homme qui était là et qui suivait tout avec les délégations. À l'époque, c'était quoi? Non, c'était les délégations spéciales.
Mais ça, aujourd'hui, il y a aussi le défi de la démographie.
Voilà.
Ça dit beaucoup, nous sommes
voilà.
Beaucoup
voilà, ça me dit qu'en réalité, le pays n'a pas encore évolué tellement sur le plan institutionnel. C'est maintenant que nous découvrons la décentralisation. Et c'est maintenant que les maires découvrent leurs responsabilités. Ceci va se régler après peut-être un ou deux, trois mandats des maires. Parce que c'est maintenant qu'on apprend, c'est maintenant qu'on arrive à ficeler de petits contrats. Sinon, dans l'état actuel des choses, ça ne peut pas véritablement marcher. Il y a un problème que vous ne voyez pas. Bientôt, on va mettre en place le Sénat. C'est-à-dire, on n'a jamais vécu cette réalité Sénat. Vous allez voir comment les premiers sénateurs vont cafouiller. Parce que ce sera une nouvelle découverte. Aussi, c'est la même chose ici avec les communes. C'est maintenant que les maires découvrent des choses. C'est maintenant que les maires découvrent de comment il faut faire des partenariats avec des communes extérieures. C'est maintenant que les maires découvrent leur véritable responsabilité quant à la gestion des ordures ménagères, quant à la gestion de petits marchés, quant à la gestion du développement de tout le développement de la commune. Donc, c'est maintenant qu'on découvre un certain nombre de choses. Donc, pour le moment, bon, nous allons souffrir un peu parce que même les maires se perdent. L'autre chose, c'est une question de moyens aussi. Est-ce que moi je me pose cette question? Est-ce que l'État, moi je ne dis pas le pouvoir, je me dis est-ce que l'État est prêt véritablement pour une véritable décentralisation? Parce que quand on parle de décentralisation, c'est une question de moyens et c'est une question de volonté. Ça veut dire que l'État en réalité veut véritablement partager ses pouvoirs et ses prérogatives. Nous sommes en haut et nous voulons vous céder une partie du pouvoir. Est-ce que et ceux-là qui sont en haut sont véritablement prêts? Moi, je parle de l'État, je parle de pouvoir. Est-ce que l'État est prêt pour céder une partie de son pouvoir à ceux-là qui sont en bas? À nous, par exemple, aux maires, aux conseils municipaux. Donc, si on ne va pas dans cette dynamique, ou peut-être s'il y a une crainte, ou s'il y a des choses qu'on redoute, il sera difficile d'avoir une décentralisation efficace et efficiente. Mmh,
d'accord. Et Thierry,
je ne suis pas Thierry. D'accord avec l'excuse que Fimer trouve aux communes comme quoi nous sommes en phase expérimentale. Parce qu'au même moment que le problème d'enlèvement des ordures se pose à certaines communes, dans d'autres communes, tout se passe bien. Quand ils parlent de moyens et les ordures ne sont pas enlevées gratuitement, la population participe, c'est payant. Donc, c'est trop facile de trouver des excuses à ces mairies-là ou à ces maires-là qui n'assument pas pleinement leurs responsabilités. C'est une défaillance. Et ces maires-là, rigueur devrait leur être tenue. Parce que ailleurs, on a passé les marchés. Ceux qui sont les plus méritants les ont remportés. Et aujourd'hui, on enlève les ordures dans des communes et il n'y a pas de problème. Alors, si. Et puis, beaucoup de mairies se sont achetées de matériel. Sur les 3 ou 4 ans passés. Donc, ce n'est pas forcément une question de moyens, c'est une question aussi de management. Ou encore, le problème que nous avons dans notre pays, c'est que les gens n'ont pas cet amour-là de construire ce pays. Je m'explique.
Patriotisme.
Voilà. Les gens n'ont pas cette envie-là de faire quelque chose, de laisser des traces, de laisser leur nom dans l'histoire de ce pays. Les gens viennent quand ils sont nommés ou quand ils sont élus pour remplir leur poche au lieu de servir la nation. C'est ça notre problème. Et quand on ne va jamais trouver de solution à ce problème-là, rien ne va changer dans ce pays. Parce que les gens doivent comprendre que, et puis, autre chose. Les Togolais doivent comprendre que tout le monde n'est pas appelé à être dirigeant. Tout le monde n'est pas appelé à être à la tête de je ne sais pas quoi. Ça dit que quand vous n'êtes pas... Tout le monde ne peut pas le faire. Parce que des gens sont nés, sont prédisposés pour servir la nation. Quand vous prenez l'exemple, c'est pour cela que l'alternance, quelque part, est une bonne chose. Parce que quand Kodjo est là, il fait son temps, il ne réussit pas. Quand Komla vient, il peut corriger ce que et qu'on doit faire et qui n'a pas réussi, c'est comme ça qu'on bâtit une maison. Quelqu'un pose la fondation, les autres viennent construire là-dessus, quelqu'un d'autre est appelé à mettre les fenêtres, quelqu'un fait le toit, quelqu'un fait le sanitaire, ainsi de suite.
D'accord.
Mais quand vous ne voulez pas qu'on puisse expérimenter l'alternance, les choses seront toujours bloquées.
D'accord. Oui, mais monsieur Nani, vous voulez acheter quelque chose rapidement?
Pascal, j'aimerais revenir sur ce que vient de dire Firmin par rapport aux communes. Si depuis les élections locales jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes en 2024, c'est en 2024 déjà nous avons 3 ou 4 ans que les mairies sont installées, si je ne me trompe.
Oui, mais pratiquement 5 ans.
5 ans.
Oui.
Alors si après 5 ans, à la tête des mairies, c'est maintenant qu'on va nous dire que nos dirigeants, nos maires sont encore en train d'apprendre à gérer les mairies, alors nous avons de sérieux problèmes dans ce pays. Parce que la gouvernance, ce n'est pas un jeu d'enfant. Ce temps-là qu'ils ont passé à rêver de devenir conseillers municipaux et après ils sont devenus maires. 5 ans dans le travail, c'est maintenant qu'ils continuent d'apprendre. C'est grave pour nous dans ce pays. C'est très grave.
D'accord. Alors, oui, mais Firmin, je voudrais qu'on quitte le sujet aussi rapidement. Et qu'on parle politique. Politique, on sait que il y a Madame Dubé qui a été reconduite par le président de la République comme Premier ministre. Mais pratiquement, on a pris 2 mois, tu le sais très bien, 2 mois alors pour la reconduite. Et finalement, on attend le gouvernement, est-ce que finalement ça ne dure pas trop?
Non, est-ce que ça va durer? Vous savez, histoire de la formation de gouvernement, des fois ça prend assez de temps. Et puis il ne faut pas isoler le contexte et les nouvelles responsabilités qui seront conférées à ce nouveau gouvernement. Il faut savoir que Madame Dubé est le dernier Premier ministre de la 4e République. La 4e République, elle est déjà partie. Maintenant, elle est là pour quoi? Elle est là pour le gouvernement de transition. Elle est là pour la transition. Elle va faire 10 mois, en réalité. Parce que c'est jusqu'en mai.
Ça n'atteint même pas 10 mois.
Ça n'atteint même pas 10 mois.
Oui, 9 mois.
Voilà. Donc, en réalité, c'est sa responsabilité. Donc, elle est nommée pour conduire la transition. Elle est nommée, vous voyez, elle n'est pas nommée avec la Constitution de 92, parce qu'on n'a pas vu la Constitution de 92. On a dit les dispositions liées à l'article 95 et suivant de la nouvelle Constitution. Donc, c'est un gouvernement de transition qu'elle va nommer. Donc, maintenant, par rapport à ça, il va falloir savoir choisir l'équipe qui va aider à véritablement mettre en place les institutions de la 5e République. Il y a tout ça aussi, parce que ceux-là qui vont venir ne vont pas avoir plein pouvoir. Ça, il faut se le dire. Ils ne vont pas avoir plein pouvoir, ils ne viendront pas pour contribuer au développement du Togo. Ils viendront juste contribuer à mettre en place les institutions. C'est un gouvernement de transition. Donc ça va prendre du temps. Le Togo a toujours des petits soucis comme ça. Parce que quand vous prenez par exemple 2005, on a fait les élections en avril, après c'est en juin, on a nommé le Premier ministre, et on avait attendu avant la formation du gouvernement. À l'époque aussi, le contexte était exceptionnel, parce qu'il fallait que les opposants envoient leur liste. Et Fonia Singbe, moi je le répète toujours, avait dit soit vous venez, on avance ensemble, soit vous ne venez pas, on avance sans vous. Donc après, vous vous rappelez aussi le contexte de Covid. Covid, donc en 2020, Fonia Singbe a été réélu. Maintenant, Klassou, qui devait démissionner, n'avait pas démissionné à l'époque, ou je ne sais pas s'il avait démissionné, mais il fallait attendre jusqu'en octobre pour qu'on nomme un nouveau Premier ministre. Donc ça a pris du temps. Et après, on a pris peut-être 1 ou 2 semaines pour former le nouveau gouvernement. Donc le Togo est toujours dans des circonstances extrêmement exceptionnelles. Aujourd'hui aussi, c'est une circonstance exceptionnelle. Donc on va attendre pour voir peut-être quand Fonia Singbe va revenir, on va nous aider, on va sortir le gouvernement aujourd'hui. Vous savez qu'il est en France. Donc il va former le gouvernement. En fait, ces derniers temps, on voit même ce qui se passe en France. Jusqu'à présent, on n'a pas encore un nouveau Premier ministre. Et donc, après un nouveau Premier ministre, on va encore passer des jours pour avoir le gouvernement. Donc, c'est les contextes, au fait, quelquefois, qui guident ça.
D'accord.
Non, oui, Thierry. Décidément, ce matin, il voit les choses de... Je ne sais pas, le contexte français, le contexte togolais n'est pas la même chose. Hein. En France, c'est parce qu'il y a un problème de majorité qui se pose. Ici, il n'y a pas de problème de majorité. Unir à gagner, on les met les élections. Mais pourquoi Unir nous perd le temps pour former le gouvernement? Unir a gagné les élections. En France, on n'arrive pas à former le gouvernement parce qu'il y a un problème. Les politiques ne s'entendent pas. Ici, il n'y a pas ce problème-là. C'est Unir et Unir qui a gagné les élections. Qu'on forme les gouvernements et que les choses reprennent.
D'ailleurs, la transition en question a un délai.
Voilà.
Et au plus tard, je crois, le 4 ou 5 mai 2025, on doit basculer totalement dans la 5e République. Plus on traîne, et plus on aura peut-être des difficultés pour tout mettre en place. C'est vrai que on nous a dit que pour les nouvelles institutions et tout, parce que l'Assemblée aussi, le temps imparti à l'Assemblée pour faire son travail et mettre les tests et autres là en place, et le gouvernement serait appelé à prendre des ordonnances pour mettre certaines structures ensemble. Mais tout ça là doit se faire dans
plus de délai.
Voilà, donc il faudrait qu'on puisse aller vite. C'est UNIR qui a gagné les élections. Et UNIR a des personnes, des cadres pour constituer le gouvernement.
Mais Thierry, où est-ce que la difficulté peut se trouver?
Mais c'est ça qu'on ne comprend pas. Malheureusement, c'est ça qu'on ne comprend pas. Bon, le chef de l'État, il est à Paris. Bon, en France, j'espère qu'il va revenir et qu'au plus tard, lundi, on aura le gouvernement. Parce que là, personne ne comprend plus rien. Ça fait d'ailleurs que les ministres sortants sont très stressés. Les gars, ils ne dorment plus. Parce qu'ils ne savent pas s'ils seront reconduits ou pas.
Vous voulez raconter souvent?
Non, mais c'est des réalités, Pascal. Les gars, ils ne dorment plus.
Et cette fois-ci,
ils veulent savoir est-ce qu'ils seront déchargés ou bien ils seront encore reconduits. Donc, d'accord. Il faudrait les libérer pour que le pays puisse marcher.
Ok, monsieur Nani, c'est vrai que le journal de Guadi a un titre à ça, une retour de Dame Vitoua Dogbe au poste de Premier ministre. Madame, ceux qui sont au gouvernement depuis 17 et 18 ans, seront-ils encore reconduits? C'est une question alors que le journal se pose. Alors, monsieur Nani, cette question mérite d'être posée.
Elle mérite d'être posée. Bon, il faut savoir apprécier les choses en fonction de ce que l'on connaît. Le chef de l'État et son premier ministre, Mme Dogbe, eux seuls peuvent nous dire aujourd'hui, dans leur équipe, ceux-là qui, malgré le fait qu'ils aient duré pendant plus d'une décennie, ont la compétence ou la capacité de faire encore le travail. Nous leur laissons, la liberté de choisir qui ils veulent. Est-ce qu'il y a une loi dans ce pays qui dit on ne peut pas être ministre pendant de tel nombre d'années? Est-ce qu'il y a un mandat qui est lié au fait de devenir ministre ou pas? Moi, je ne saurais le dire. Si la personne fait bien, si selon les critères d'évaluation du dirigeant, la personne fait bien, peu importe que la personne ait passé 10 ou 15 ans au même poste, il faut juste le reconduire.
D'accord. Oui, mais finalement, quand on prend cette question posée par des Guadiens, le journal des Guadiens, parce qu'il y a des gens quand même qui ont duré dans le gouvernement, et finalement, est-ce qu'il ne faut pas aussi faire avec d'autres personnes qui n'ont jamais fait l'expérience?
Non, en commençant par Mme Dogbe, elle fait déjà plus de 10 ans au gouvernement.
Oui.
10 ans, une dizaine d'années comme directrice de cabinet aussi, du président de la République. Vous savez, bon, moi aussi je faisais 10 ans de critique, mais en fait, quand vous lisez un peu la politique dans le monde, vous savez, quand vous arrivez au pouvoir, vous prenez qui pour former le gouvernement? Vous prenez vos amis, vos amis d'enfance.
C'est important.
Vos amis d'enfance, vos amis de lycée, université, c'est la même, c'est comme ça. Après, vous non, allez...
Mais toujours est-il qu'il faut aussi la compétence?
Oui, des fois on n'a même pas la compétence. La personne n'a jamais été politique.
La loyauté. Hein.
La loyauté. La personne n'a jamais été politique. Quand vous voyez Brice Hortefeux, par exemple, Sarkozy, il y a des gens qui ont fait le lycée. Mais ils n'avaient aucune compétence politique. C'est la loyauté, c'est la fidélité au fait. C'est une question d'amitié. Bon, moi, je viens d'avoir un gros poste. Viens aussi, on va manger. Bon, mais aide-moi à faire ceci. C'est ça, en fait. Il ne faut pas se tromper.
Non, mais si c'est viens, on va manger, où se trouve l'intérêt du peuple?
C'est ça ce que je vous dis, les gars. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on se trompe. La politique, c'est comme ça. Pas qu'on trompe les gens. C'est ça, commence comme ça. Moi, si je viens d'avoir un poste, bon, il faut que j'arrive à toujours maintenir ce poste-là. Alors, il faut des amis, une certaine fidélité. Bon, viens, j'ai un poste-là. Donc, viens, je donne ce poste-là. Maintenant, avec des marchés, tout ça. Et aussi, ce qui est même grave, avant que le gars ne parte, c'est-à-dire le puissant, avant qu'il ne parte, il dit, bon, l'ami vient le voir, il dit, bon, il faut me placer quelque part. Vous voyez, par exemple, l'actuel président du Conseil constitutionnel en France, c'est Laurent Fabius, ancien premier ministre de France, qui a été un proche de Hollande. Mais avant que Hollande le parle, bon, ils se sont discutés, ils disent, bon, il faut me trouver un poste avant de partir. Donc, on lui a dit, ok, va rester au Conseil constitutionnel comme président. Oui, c'est comme ça, ça se passe. La politique, c'est bizarre. Le peuple vient après. Le peuple, il vient après. C'est-à-dire que moi, je viens, bon, je prends mes amis d'enfance. Vous savez, quand moi, si j'ai arrivé au grand poste du jour au lendemain et que j'ai la possibilité de nommer, de former un cabinet, je prends mes amis d'abord, avant de passer à vous, non. Pascal Lossou. Vous imaginez.
C'est-à-dire,
vous prenez votre ami d'enfance et après, vous prenez vos amis politiques. Et après, peut-être des gens qui ont eu certaine expérience. Des gens peut-être qui ont fait 10 ans, 15 ans dans un gouvernement. Parce que quelquefois, vous avez besoin de l'expérience. Vous connaissez François Fillon. Les François Fillon ont fait gouvernement pendant plus de 15 ans. Donc, c'est une question d'amitié, d'expérience.
D'accord, ok, merci beaucoup. Oui, bien, Thierry, quelle doit être alors la nomenclature du nouveau gouvernement ou du prochain gouvernement, j'allais dire.
Ce que Firmin dit, ça fait arriver. Malheureusement, c'est la triste réalité. Sauf que dans les autres pays, les gens sont plus soucieux du développement du pays. Ils sont engagés pour le développement du pays. Vous travaillez, il y a le vol partout, hein. Ne nous leurrons pas.
Vous voulez parler de la corruption?
La corruption.
Partout,
il y en a. Mais c'est la nation qui prime sur tout. Vous prenez pour vous. D'accord, mais construisez le pays. Malheureusement, dans certains pays, ce n'est pas ça. On prend tout et tout, on garde tout pour soi-même. C'est là où ça fait mal. C'est là où ça fait que ces pays-là ne se développent pas. Si on prend l'exemple des autres. Alors, la nomenclature du prochain gouvernement, moi, je ne suis pas politique. Moi, je ne suis pas du Parti Unir. Et je ne sais même pas si ce qu'on dit ici est pris en compte. Mais je crois qu'il faut mettre des technocrates, surtout quand on se dit qu'on va basculer, c'est une transition. Il faut des gens qui puissent travailler véritablement pour qu'on puisse asseoir des institutions dignes de ce nom, des institutions dans lesquelles la population se retrouve, la population a confiance que les gens qui seront à la tête ou qui vont animer ces institutions-là ne soient pas là pour servir et seulement que le chef, mais pour servir la nation, le peuple togolais. Je crois que si on arrive à faire un bon casting, je crois qu'on peut réussir ce pari-là. D'accord. Et que les gens se mettent véritablement au travail au lieu de remplir leur poche. Ils vont manger, mais ne prenez pas tout, prenez que et le reste, que ça serve à construire notre pays.
D'accord, que le reste serve vraiment à construire notre pays. Cher confrère, nous allons marquer une pause et donner aussi la parole à nos auditeurs qui s'impatientent à entrer en ligne pour participer à ce débat avec nous. C'est sur le 90 86 35 35 ou 91 36 63 75. Nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
En cette ère où le commerce électronique ouvre des horizons inédits, Lomé accueillera du 20 au 26 août 2024 la troisième édition de la semaine du e-commerce. L'édition 2024 est une opportunité pour discuter des défis et des opportunités, mais aussi pour découvrir les perspectives futures du commerce en ligne dans le monde. Participez à des panels d'experts, explorez des innovations technologiques et tissez des liens avec des leaders du secteur et des acteurs influents de l'écosystème. Découvrez comment l'e-commerce promeut l'innovation, renforce l'inclusion financière et transforme le paysage économique du Togo et de toute l'Afrique pour une croissance économique durable. Soyez acteurs de la transformation et rejoignez-nous dès maintenant. www.semaineduecommerce.com pour façonner l'avenir du commerce électronique en Afrique. Infoline plus 228 93 44 17 17 97 51 51 52.
Une entreprise qui souhaite se développer a besoin d'accéder à des informations, d'analyser un marché, identifier ses prospects, ses partenaires, ses concurrents et bien entendu les contacter sans difficulté. Go Africa Online recense, classe, enrichit et surtout tient à jour des millions d'informations sur le monde des affaires en Afrique au profit des utilisateurs, tant dans leurs besoins personnels que professionnels. Notre plateforme est la première source d'informations sur le monde des affaires en Afrique. Vous voulez accélérer vos opportunités d'affaires sur le continent? Une seule référence, www.goafricaonline.com.
La bière La Saison Tradition est de retour dans son format 50 centilitres à 600 francs CFA. Bière très spéciale, non filtrée, en édition très limitée. Découvrez cette bière équilibrée, harmonieuse et rafraîchissante à 5,5% de taux d'alcool. Célébrons notre tradition togolaise dans nos différentes localités avec la bière, la saison tradition.
De gamme de Canal Boutique, votre magasin de prêt-à-porter où vous trouverez tout article vestimentaire homme. Pour le renouvellement de votre garde-robe, pour votre mariage ou autre cérémonie, vous trouverez ce qu'il vous faut à haut de gamme de Canal Boutique. Costume, deux ou trois pièces. Saharienne, blazer, pantalon chemise, ceinture, chemise et chaussures, le tout de qualité supérieure. À haut de gamme de Canal Boutique, passez les commandes des articles pas disponibles en magasin. À haut de gamme de Canal Boutique, vous trouverez des parfums de grande qualité. Vous aimez du beau? Alors faites-y un tour. À Canal Boutique, vous y trouverez de la qualité. Canal Boutique, boulevard du 13 janvier, en face du feu tricolore et du terrain nu de la Lonato. Contact 90 77 97 07.
Le plaisir pour l'acquérir. Écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35. Premier auditeur, allô?
Allô, bonjour Canal FM.
Bonjour Nestor, comment vous allez?
Oui, je vais bien.
Allez-y.
Oui, merci pour le monsieur de la photographie. Ces informations m'ont été précieuses sur plusieurs plans en ce qui concerne l'évolution de la technologie et surtout le côté des infrastructures routières. D'où le slogan « La route du développement passe par le développement de la route ». Ce qui touche à la vie chère et à la sécurité alimentaire. Il y a une évolution des infrastructures routières, ce qu'il faut souligner, mais il y a débat au niveau des caniveaux, ce qui conduit par exemple aux inondations qui sont des causes structurelles entraînant la vie chère. Merci Canal FM.
Merci beaucoup Nestor pour votre intervention. 90 86 35 35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour Pascal.
Votre nom c'est?
C'est Monsieur Ballot.
Monsieur Ballot, vous nous appelez de quel quartier?
Dagoué.
Allez-y Monsieur Ballot.
Ok, merci pour le plateau. Et je remercie vos collègues qui ont fait de très bons développements concernant les problèmes dans les hôpitaux, dans les mairies. Vraiment, il y a partout, il y a besoin et il y a problème. Mais dans les hôpitaux, il faut que le Saint-Fort prenne des initiatives pour vraiment maintenant sévir. Leur affaire de constat là, ça va, ça suffit. Ils ont constaté pendant des années, ça suffit. Maintenant, il faut aller, c'est-à-dire utiliser le bâton. Puisque les gens meurent dans les hôpitaux gratuitement. Bon, maintenant je vais au niveau du gouvernement. Vous voulez qu'on nomme le ministre pour faire quoi encore? Les gens sont là, depuis on les nomme, ça ne change pas. Ils n'écoutent pas le peuple, ils ne reçoivent personne. Vous voulez qu'on nomme les gens et puis on va encore, les gens vont mettre en paix, dit, et à vous ne pas. Les gens vont chercher les tam-tams, danser, on dirait que c'est à un examen que la personne a réussi, ou ça a une loterie, que un jeu de hasard que la personne a gagné, on vient pour manger. Le poste de gouvernement, le ministre est devenu. C'est-à-dire un peu sous, les gens pensent que quand on nomme son frère ou bien son oncle ou son cousin, c'est la fête. Moi, je préférerais même que ça n'a qu'à rester comme ça. Le président, heureusement qu'il est en France. S'il était là, moi, je lui envoie un appel. Il n'a qu'à, ça n'a qu'à rester comme ça. Si ça pouvait rester, ça n'a qu'à rester comme ça. Il veut qu'il va l'envoyer. Les gens sont là, ils n'écoutent pas le peuple. On va encore les nommer, venir encore nous narguer. Bonne journée.
Bonne journée à vous aussi, M. Ballot, pour votre intervention 90 86 35 35. Allô?
Alors, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Oui, ça va.
Votre nom, c'est?
Oui, Hervé de Vakposito.
Pardon?
Hervé.
Ah, Hervé, voilà, Hervé de Vakposito.
Oui, merci.
Allez-y, oui.
Tout d'abord, concernant la mairie, là. Je ne sais pas, la mairie, ils sont là pour qu'elle roule. Hein. Je ne sais pas si dans la 5e République, il y en aura encore ces maires-là. Moi, je voulais que s'il y en aura, il faut qu'on les bannisse. On doit être, ça devait être comme dans l'ancien temps de Yadema là quoi. Comment ils faisaient, il n'y a pas de ça de traiter là. Ils vont gérer avec ça comme ça. Concernant les hôpitaux, moi je vois que les hôpitaux là, d'abord même le ministre de la Santé là, depuis quand il est dans le gouvernement là. Je ne le l'ai jamais entendu parler quelque part. Hein. À part dans des musiciens, il sort, il fait un petit communiqué, pour parler un peu. Sinon, le monsieur, je ne sais pas s'il est, il parle bien, il vient, il travaille de quoi là. On ne lui sent même pas quoi. Hein. Ou bien, ça ne veut pas dire que peut-être, quand le monsieur, on ne lui sent pas, ça veut dire que peut-être, c'est comme ça, les infirmiers aussi ont dit que le monsieur, il s'en fout. Eux aussi, ils s'en foutent pas mal. Donc, ce qui est plein, le font. Hein. Donc, c'est ça.
D'accord.
Donc, dans cette république là, si, on va former un gouvernement là. Le monsieur, il faut que il est incapable ou bien quoi là. On n'a qu'à le mettre quelque part quoi, pour changer quelque chose.
Merci beaucoup Hervé pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 75. Quand nous parlons alors de mauvais accueil, il y a une auditrice qui nous a envoyé le message. Mais je reçois cet auditeur d'abord. Allô.
Allô.
Oui, bonjour.
Allô.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
Comment vous allez?
Je vais bien.
Votre nom, c'est?
Moi, c'est monsieur Jean.
Monsieur Jean.
Vraiment, je vous appelle de Agoy.
Allez-y.
Ok, vraiment, je remercie tout le plateau, tout précisément monsieur Firmin. Il a attaqué un point qui m'a vraiment intéressé. Concernant ce qui se passe dans nos hôpitaux. Vraiment, vous voyez, nous les Togolais, moi je vois que nous-mêmes, nous ne nous aimons pas. Et nous n'aimons pas notre pays. Sincèrement, il faut se dire la vérité. Dans nos hôpitaux, vous arrivez, vous attendez, le médecin arrive. Vous êtes arrivé avant que quelqu'un arrive. Aussitôt il est venu, il a ouvert son bureau, il envoie son secrétaire d'appeler tel monsieur. Et il s'occupe de lui. Sérieusement. Et après, il sort que ce ménage va s'apprêter avant de vous recevoir. La tête, dans nos hôpitaux, la tête même est la cause de ce qui se passe. Les docteurs eux-mêmes ne font rien pour changer. Il faut se servir d'abord. Ce service, ce n'est pas servir les patients. Ce service, ça veut dire que celui à qui il a donné rendez-vous, c'est à lui d'abord. Si je dis nous ne nous aimons pas, regardez sur nos routes. Tu es là, tu cèdes le passage aux autres, quelqu'un vient, il passe, et maintenant, avec vitesse, il se permet de te soulever la tête de tomber, dîner. Ce n'est pas bien. Moi, je vois que pour que ça puisse aller dans ce pays, on doit même, je sais que ce n'est pas du tout bon, mais qu'on crée une journée morte. Ça veut dire que la journée-là, on ferme tout, chacun reste dans sa maison. Même les tout petits n'ont qu'à demander, papa, maman, qu'est-ce qui se passe? Et aujourd'hui, toute la ville est calme comme ça. On n'a qu'à essayer d'expliquer à tout le monde que la violence que nous menons en circulation ou bien dans les services, c'est à cause de ça pour que chacun puisse prendre conscience. Sinon, trop, c'est trop.
D'accord.
Merci. C'est trop, sincèrement.
Merci beaucoup, monsieur Jean, pour votre intervention. La dernière fois, j'ai acheté quelque chose, alors pour 500 francs, j'ai donné 2000 francs. On m'a dit qu'il n'y a pas alors la monnaie. On m'a repris la marchandise. J'étais sidéré. C'est une auditrice également qui nous a envoyé le message concernant surtout le mauvais accueil. Hein. Quand nous avions parlé alors de mauvais accueil, hein, notre auditeur, allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Nyamavo.
Oui, Nyamavo.
J'espère que vous allez bien.
Je vais bien.
Allez-y.
Et vous savez, un blanc dépasser son argent pour venir juste en Afrique pour rien faire. Parce que quelqu'un de la diaspora lui avait dit qu'en Afrique, on répond à des questions, pas des questions. Il était étonné. À sa descente d'avion, sa première question, on dit chez vous en Afrique, vous répondez à des questions, pas des questions. L'Africain l'a demandé, qui t'a dit ça? Le blanc a repris son avion pour partir. C'est dans nos comportements, c'est dans nos gènes. C'est-à-dire que c'est dû à quoi? C'est parce que les Africains sont dépassés. Ce n'est pas ce qu'ils veulent. C'est pourquoi ils sont aigris. Vous avez un ministre togolais, dont je peux taire le nom, a dit qu'il a deux bonnes. Une qui a fait la première, une qui a fait la troisième. Celle qui est en troisième ne veut pas travailler parce qu'ils ont le même salaire. Donc, quelque part, on ne paie pas aux gens ce qu'il faut. Ils sont aigris, ils ne veulent pas rendre service. Aujourd'hui, nous étions dans une banque et on était en train d'apprécier la gestionnaire qui était le nom de la banque. Mais le chef d'agence, depuis la semaine passée, les gens viennent, ils les repoussent, il est là avec son portable manipulé. Donc peut-être on n'a qu'à le rémunérer correctement pour qu'il travaille. Ou bien les conditions de travail, ça ne va pas. Il faut voir aussi ce côté. Et vous voyez, donc quelque part aussi, ce n'est pas de la volonté du Togolais de se comporter ici. C'est le régime. Celui qui apprécie la constitution, vous allez voir que c'est la minorité qui apprécie la constitution avec son clan. C'est-à-dire les ministres, le pouvoir, quelquefois une partie de la presse. Donc, sur la majorité ne soutient pas cette constitution, ne soutient pas ce qui se passe dans le pays. Quelqu'un l'a dit, sans l'alternance, comment on peut apprécier les choses? Toi seul qui danses, si tu apprécies, ce n'est pas bien. Je vous remercie.
Merci beaucoup, M. Nyamavo. Nous avons un autre auditeur. Allô?
Allô, M. Pascal.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez?
Je vais bien, et vous?
Ça va aussi. Votre nom, c'est...
Monsieur Kossi de Sabado.
Monsieur Kossi de Sabado.
Oui.
Allez-y.
Je salue le plateau. Je salue M. Firmin. Oui. En passant par les autres.
Thierry. Bon,
je voudrais dire que je veux parler des maires. J'ai entendu une voix. Est-ce que c'est M. Avocat?
Non, M. Avocat n'est pas là.
C'est pas M. Avocat?
Non.
Je voudrais dire que après les expériences, après tout ce que nous avons vu, depuis qu'on a créé les communes et les maires, je souhaite, je propose qu'on confie nommer M. Avocat. Non, vraiment, ce monsieur, il fait. Il n'est pas un pagailleur. Il ne cherche pas l'argent comme n'importe comment. Vous comprenez? Son idée, c'est le développement de la fille, la propriété. Il a toujours dit sur nos antennes quand il arrive là-bas. Zéro. Le maire, je ne sais pas combien ils sont, le nombre de services qu'ils ont. Et quand ils sont laissés, même les ordures n'arrivent pas à ramasser. Un jour, on essaie de ramasser les ordures dans une maison de qualité, j'ai vu. Monsieur Pascal, ce n'est pas possible. Il y a des ordures chez les gens comme ça. Ils sont maires pour quoi? Je veux parler de M. Fabre. Il a longtemps chanté sa valeur, ce qu'il peut faire. Il est maire, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien. M. Fabre, je l'interpelle. Il n'a qu'à envoyer ses agents dans les quartiers. Nous sommes en train de souffrir dans nos quartiers. Les ordures souffrent. Les gens mettent les pierres dans la rue. On n'a pas besoin de passer avec les voitures. Tout ça, là, ils n'arrivent pas à voir parce qu'ils ne sortent pas. Les chaussées, ils les ont loués, ils ont pris de l'argent, ils ont loué ça aux gens. Les gens ont exposé leurs marchandises sur les chaussées. Ils sont fatigués dans ce pays. Merci, bonne émission.
D'accord. Merci beaucoup, M. Kossi, pour votre intervention. Je pense que, Thomas, nous avons encore quelques minutes pour recevoir le dernier auditeur pour le compte de cette émission de ce vendredi.
Allez. Allô? Non, c'est juste le bonjour à vous tous. Oui,
bonjour, madame.
Ma voix qui me fait rire, qui m'a fait rire. Et puis, Ali et tout le reste. Avant, on jette des fleurs à M. Avocat qui a géré tout le golf, tout seul, durant 30 ans, sans nous faire le bilan. On lui jette des fleurs. Hein, c'est volé. Bye-bye, je n'ai pas de forfait. C'est juste pour vous faire un coucou.
D'accord, merci beaucoup. Puis, c'est très gentil. C'est très gentil de votre part.
J'en ris aux larmes. Les Togolais sont ce qu'ils sont, quoi. Et Firmin le dit souvent, quoi. Ils sont ce qu'ils sont. Et puis voilà.
D'accord. Merci beaucoup, madame, ici, pour votre intervention. Et vous êtes la dernière auditrice, alors, pour le compte, alors, de cette émission de ce vendredi. Chers confrères, nous allons revenir en plateau pour faire un dernier tour de table avant de clôturer cette émission. Thierry, vous avez écouté les uns et les autres se prononcer aussi sur l'actualité, hein, telle que nous l'avons débattue ici au Club de la Presse. Et quelle est votre réaction?
Oui, je crois que chacun doit faire un sursaut d'orgueil. Si nous aimons vraiment notre pays, il faut l'engagement de nous tous pour construire ce pays. Sinon, ce qui se passe, sincèrement, ça ne va pas. Sur tous les plans, ça ne va pas.
il faudrait que on se mette véritablement au travail, que ceux qui ont la responsabilité de ce pays pensent d'abord au pays qu'à leur poche. C'est le plus important. Aujourd'hui, les gens sur les réseaux sociaux comparent le Togo au Bénin, comparent le Togo au Ghana et tout, mais tout ce que Talon est en train de faire chez lui, au Bénin, vous n'allez pas me dire qu'il n'a pas sa part dedans. Mais il a à cœur de développer, de construire ce pays. Il faudrait que nous puissions partager cette envie-là, cette politique-là. Ça dit que oui, bon, vous aurez pour vous, mais que le pays soit construit. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire avec tout ce que Alassane Ouattara fait, mais vous n'allez pas me dire que il n'a pas sa part dedans. Hier, j'ai posé c'est trop difficile. J'ai posé la question à l'ambassadeur de Chine dans un cadre, pourquoi la rénovation de l'aéroport de Niamtougou qu'on nous avait annoncé jusqu'à aujourd'hui, on ne dit plus rien. Mais l'ambassadeur était embarrassé, il n'a pas pu répondre. Il m'a dit de poser la question aux autorités togolaises. Ça veut dire que sincèrement, il y a un problème. On nous annonce les choses, mais on ne voit pas leur réalisation, on ne voit pas les choses se concrétiser. Ça fait très, très mal.
Ah, d'accord, ça fait très, très mal. Oui, monsieur Anani.
Pascal, lorsqu'on vous demande de nourrir un enfant, c'est clair que vous ne pouvez pas le faire sans vous lécher les doigts. Mais si vous arrivez à vous nourrir, à prendre la grande partie de la nourriture et à laisser l'enfant insatisfait, vous êtes
comme
un sorcier.
Comme on le dit, à tailler même la part du lion.
Voilà, vous êtes un sorcier, vous êtes méchant. Écoutez, j'ai un message à l'endroit des mairies, à ceux-là qui sont dans les mairies, qui les dirigent, ceux que nous appelons les maires. Il faudrait qu'ils puissent revoir la méthodologie de passation des marchés. Nous savons que lorsque ces marchés sont donnés, il y en a qui trouvent quelque chose à manger, c'est tout à fait normal. Mais nous demandons qu'on trouve des gens compétents qui puissent faire un travail de fond.
Mais il y a tout un service même d'ailleurs qui s'occupe de cela. Hein?
Voilà. Nous demandons juste que ce qui doit être fait dans nos mairies, ce que les maires doivent faire, ce que ceux-là qui sont dans les mairies, pour faire ce travail-là, qui se sont donnés à faire, qui puissent les faire pour satisfaire la population. Parce que le danger que je vois, c'est que dans les quelques mois qui nous restent pour aller aux élections locales, beaucoup de mairies qui sont des mairies données
à
l'opposition, voilà, vont encore basculer du côté du pouvoir. Parce qu'il y a des gens qui sont mécontents de la manière dont ces mairies ont été gérées depuis le début jusqu'à maintenant.
D'accord. Donc vous voulez dire que les maires du pouvoir...
Non, je ne dis pas ça. Ce que je suis en train de dire, c'est que ces personnes-là qui sont de l'opposition, qui nous ont crié tout le temps dans ce pays, nous pouvons bien faire, nous voulons le pouvoir central, nous pouvons faire ceci, on les met dans les mairies pour faire un travail de fond, un travail...
Mais quand vous dites on les met, c'est plutôt alors la population, enfin, le peuple qui les a choisis.
Je parle du peuple.
Tout à fait.
Je parle du peuple. Mmh. Le peuple les choisit et voilà, ils nous font un travail médiocre. Je suis désolé,
mais... On va pas dire médiocre quand même.
Moi, je dis médiocre. Et j'assume.
Voilà.
Je dis un travail médiocre.
Je vous assume. Oui,
j'assume. Mmh. Et nous sommes en train d'attendre un vote sanction. Un vote sanction qui ne va pas avantager forcément la population,
d'accord,
mais qui va basculer du côté du pouvoir.
Ok, merci. Oui, Firmin.
Moi, ce qui peut aider à construire un pays, c'est le patriotisme. Mm. On peut tout dire, mais si on n'a pas l'esprit patriotique, on ne peut rien faire. Alors, moi, je demande à ce que dans le système éducatif togolais, qu'on revienne à ces valeurs fondamentales. Le patriotisme. La Chine est devenue ce qu'elle est avec le patriotisme. Les Occidentaux construisent tout sur la base du patriotisme. Si le chef de l'État veut construire ou veut avoir son équipe, qu'il mette un accent sur le patriotisme.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il s'entoure de ceux-là qui ont l'esprit patriotique.
D'accord. Monsieur Flavien Bakoman, nous sommes à la fin de cette émission. Votre mot de la fin, peut-être pour clôturer l'émission.
Oui, et mon mot de la fin, je demande aux autorités de ce pays de se pencher sur ce projet. Au moins qu'il essaie de de nous contacter. On essaie de discuter avec nous pour voir la faisabilité de ce projet. Dans ce projet, il y a beaucoup de choses, hein, le patriotisme. Il y a des thématiques comme le patriotisme, le civisme et autres qui font partie de ce projet.
D'accord.
C'est un projet citoyen.
D'accord. Merci beaucoup, monsieur Bakouma, d'être passé dans cette émission. Et Thierry Afanoukoué, merci d'être passé dans cette émission aussi. Monsieur Anani Kofi, merci d'être passé dans cette émission. Fermette Kouagbo, merci à toi d'être passé dans cette émission. Nous sommes à la fin. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Et merci à vous qui nous avez appelés aussi dans cette émission pour votre contribution à ce débat citoyen que nous avons mené ensemble. Merci à Thomas et Ted TV qui a assuré la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Jérôme Dakoucha. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve lundi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien et passez un bon week-end.
Pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.